Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux grandes découvertes de la médecine et tout spécialement ce soir à l'immunothérapie du cancer. On va essayer de débroussailler avec nos invités cette situation véritablement révolutionnaire et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, Madame Caroline Robert, qui est chef de service de dermatologie à Gustave Roussy, et de Monsieur Éric Vivier, professeur d'immunologie à Aix-Marseille, directeur de la société de biotechnologie Innate Pharma et membre de l'Académie de médecine et de l'Institut universitaire de France. Et vous êtes co-auteur avec Marc Dairon de ce livre publié chez Odile Jacob de l'immunothérapie des cancers. Il n'est pas là avec nous ce soir, mais il est là dans les écrits et dans votre diction, puisque vous avez travaillé ensemble. Nous voilà donc pour 45 minutes ensemble pour essayer de débroussailler ce que c'est que l'immunothérapie, particulièrement l'immunothérapie du cancer. Donc merci à tous les deux d'être là. Caroline Robert, vous êtes une professeure émérite avec de nombreux prix, de nombreux brevets, de nombreuses publications. Et vous vous êtes centrée surtout sur le mélanome, c'est-à-dire ce cancer de la peau, un des cancers de la peau, parce que c'est pas le plus fréquent. Hein.
Pas du tout, c'est vraiment pas le plus fréquent, mais c'est le plus grave.
C'est celui qui fait le plus peur, on va dire. Avant qu'on aborde donc différentes modalités de cette situation nouvelle que vous caractérisez, je crois, l'un comme l'autre, d'une véritable révolution scientifique, à savoir l'apparition de nouveaux types de traitements pour des cancers qui jusqu'à là n'avaient pas d'issue. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un prix Nobel tout récent, donc l'année dernière, avec Monsieur Tasuku Ono et Monsieur James Allison, un Américain et un Japonais. Donc on va reprendre d'ailleurs l'histoire, parce qu'elle est, je trouve, assez étonnante, de gens qui ont commencé à penser, commencé à chercher, trouver et appliquer à l'homme, parce qu'il y a toute une démarche. Et on va le voir, en particulier, il y a 22 et 24 ans d'écart entre le début des festivités de la recherche et l'aboutissement, en tous les cas, de la pratique humaine. Donc c'est assez étonnant. Mais revenons, si vous le voulez bien, au secteur cutané, au mélanome. Donc vous dites que ça représente que 10% des cancers à peu près, de la peau?
Oui, c'est vraiment le cancer qui est pas fréquent. En fait, les cancers de la peau, c'est les plus fréquents des cancers. Mais le plus souvent, c'est des choses qu'on a sur la peau, qu'on enlève, et on n'en entend plus parler, sauf qu'il y en a un autre à côté, on les enlève, ça va. Ça, c'est vraiment le soleil, ça fait comme des petites verrues sur la peau, c'est pas grave. Le mélanome, beaucoup plus rare, qui ressemble un peu à un grain de beauté, mais qui n'en est pas un, qui est quand même un grain de beauté un peu bizarre, qui peut d'ailleurs provenir d'un grain de beauté, mais pas toujours. Et là, c'est des lésions pigmentées qui se développent à partir des cellules qui font la pigmentation de notre peau. C'est pour ça que ça ressemble à des grains de beauté. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que, à l'inverse des autres qui donnent très rarement des métastases, lui, alors qu'il peut être tout petit, quelquefois il fait moins d'un millimètre d'épaisseur,
À peine visible,
eh bien il est capable assez vite d'envoyer des cellules qui vont partir par les vaisseaux lymphatiques ou les vaisseaux sanguins et faire des métastases. Et c'est ça qui tue les patients, c'est les métastases. En fait, si le cancer ne donnait pas de métastases, ce ne serait pas une maladie grave.
Ce ne serait pas un cancer. Par définition, c'est comme celui-là qui...
Oui, enfin nous, on a quand
oui,
même
vous,
les,
en dermato, vous
les
avez des
carcinomes basocellulaires
qui restent locaux. Hein,
ça,
voilà,
c'est
vrai. Dans cette situation, vous développez, je vous ai entendu parler de prévention, hein, pour essayer d'éviter de se trouver dans les grandes thérapeutiques dont on va parler, nouvelles et formidables, mais quand même, dont on essaye d'éviter, pour mieux éviter que guérir. Et les préventions, c'est le soleil essentiellement.
Oui, c'est le facteur de risque sur lequel on peut agir, je dirais. Parce que les autres, ils sont internes à nous, ils sont génétiques. On conseille aux gens de ne pas prendre de coups de soleil. On sait maintenant que le coup de soleil, c'est quand même un facteur de risque de mélanome. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas dire aux gens « ne sortez pas entre midi et 4 heures ». Je trouve que c'est un peu exagéré. On entend souvent ça, « ne pas sortir entre midi et 4 heures ». Il faut se protéger, il faut être raisonnable. Il faut regarder comment les gens qui habitent dans les pays très ensoleillés font. Parce qu'en fait, ils font comme il faut, ils se couvrent, ils prennent pas de coups de soleil. Et nous, on a des crèmes solaires qui sont assez efficaces si on sait bien les mettre. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'on n'en met pas assez et qu'on loupe des endroits Donc on croit qu'on est protégé, mais on ne l'est pas. Donc il faut faire attention au soleil. Ouais.
Deux questions sur le mélanome rapidement. Est-ce qu'on peut détecter par une prise de sang l'évolutivité d'un mélanome? Est-ce qu'on a...
Aujourd'hui, non. On a des choses en cours qui nous permettent de dépister quand le mélanome, enfin, métastatique commence à aller mal, mais ça fait encore partie de la recherche.
Et quid dans l'avenir de la télémédecine avec de prendre des photos, parce qu'on ne peut pas se faire surveiller tous les 6 mois?
Oui, c'est sûrement quelque chose qui sera intéressant pour nous. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas au point, il faut faire attention, il ne faudrait pas se rassurer à tort, mais il y a beaucoup de travail dessus et je suis sûre que ça va être un jour au point.
Voilà, donc ça c'est la petite séance de quelques minutes de prévention. Et là, on va attaquer le dur du sujet, c'est-à-dire le mélanome et ses métastases, et le fait que dans certaines circonstances où cela survient, il n'y a pas, ou il n'y avait pas en tous les cas, de possibilité de traitement. Pour parler clair, on était plutôt en train de compter les mois de survie. Je vais me tourner vers vous, Éric Vivier, parce que vous avez donc dans le livre que je citais de Dean Jacob, avant d'aborder là encore ce qui fait le sel de cette réunion, qui est vraiment les nouveautés en immunologie, mais il faut comprendre ce que c'est que l'immunologie. Et c'est quand même très difficile, même pour des médecins. Et j'aimerais que vous nous disiez, qu'est-ce que c'est que la base de l'immunité, d'une part. Et vous commencez votre livre, alors il est passionnant, hein, je le dis très franchement, parce qu'il a une écriture, il raconte des histoires. Hein, il raconte des histoires, l'histoire de la peste. 25 millions de morts au XIVe siècle, 25 millions en Europe. Hein, je veux dire, la grippe espagnole, c'est du kiff-kiff. Enfin, je veux dire, c'est redoutable.
Les maladies infectieuses ont toujours été un problème pour l'humanité. Et le système immunitaire, justement, nous aide à lutter contre l'ensemble de ces agressions. Donc, si on veut essayer d'aider à la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'immunité, on a un système immunitaire composé de plein de cellules différentes qui sont partout dans l'organisme et qui aident donc, enfin, qui peuvent détecter d'abord les agressions extérieures. Donc les microbes, les virus, les bactéries, les champignons, et puis aussi les agressions internes, comme les cancers, on y reviendra. Et donc ce système de cellules est organisé en deux grandes parties. C'est pas l'objet de faire un cours d'immunologie, mais pour que tout le monde puisse comprendre.
Oui, c'est indispensable.
Il y a le système immunitaire inné que tous les animaux ont. Et puis, il y a 550 millions d'années, quand la mâchoire inférieure est apparue, et quand on a eu des vertèbres, il y a eu un deuxième système immunitaire, qui est le système immunitaire adaptatif, que tout le monde connaît, parce que c'est celui des lymphocytes, peu importe le nom, mais c'est les cellules en particulier, dont une partie font des anticorps, qui sont les lymphocytes B, et puis les autres, les lymphocytes T, qui sont au centre de l'immunothérapie dont on va parler. Donc, ces deux systèmes s'organisent dans une chorégraphie qui est juste belle, moi, je trouve, et en tout cas très efficace, parce qu'elle permet de lutter contre la majeure partie des agressions auxquelles on est confronté, et on le montre par la clinique. Très simplement, puisque malheureusement des enfants qui ont des mutations qui leur interdit d'avoir un système immunitaire complet, c'est les fameux bébés bulles, et bien en fait on est obligé de les traiter par greffe ou par thérapie génique de telle manière à reconstituer le système immunitaire. Donc le système immunitaire est à l'évidence essentiel à la vie.
Vous savez que j'avais fait les premiers accouchements de bébés bulles, où on mettait une grosse bulle sur le ventre de la maman. On faisait une césarienne. Nous, on était quasiment en bottes, mais les mains étaient on était protégées. Et le bébé, il sortait par un sas pour aller jusqu'à une couveuse où on avait mis des petites souris pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection la veille et l'avant-veille, hein, parce que elle détecte le moindre microbe. Et vivait comme ça quelques temps dans le bulle, le temps éventuellement d'envisager les greffes. Les autres petites histoires, d'ailleurs, c'est celle de Mary Whitney Montagu que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire en fait se protéger contre le virus étranger en se l'inoculant doucement. C'est le coup de la variole?
Oui, alors l'histoire de la variole est complètement incroyable, parce que cette Anglaise, en réalité, hein, a profité de son rang social, de l'impact qu'elle pouvait avoir autour d'elle, pour véritablement démocratiser la variolisation. Donc, la variolisation, pour que tout le monde soit sur la même page, c'est quand même l'injection d'une substance qui extrait des lésions de la variole. Variole qui, je le rappelle à tout le monde, est une maladie virale, qui peut être mortelle chez l'homme, qui laisse de toute façon des cicatrices cutanées qui sont extrêmement importantes. On appelait ça la petite vérole à l'époque. Et en fait, l'idée, c'était de prendre du jus, en quelque sorte, de ces lésions d'un patient qui avait la variole, et de l'injecter chez quelqu'un d'autre pour le prémunir. Donc évidemment, il y avait des effets secondaires. Les effets secondaires, c'était ceux de la maladie elle-même. Donc on induisait la maladie avec cette idée qui était sous-jacente que quand on avait résisté à une maladie, on était une première fois, c'est-à-dire qu'on n'en était pas mort en réalité, eh bien on développait une immunité contre les infections qui allaient venir par...
Bon, ça va être la base de la vaccination.
Exactement, c'est la base de la vaccination,
et
génère...
Et tout aussi, ça, exactement. De développer justement, d'inoculer les germes inactivés, enfin ou bien faiblement actifs en tous les cas, pour développer le système de défense immunitaire que vous évoquiez tout à l'heure, et qui reste quand même... Encore bien mystérieux, puisque vous avez passé rapidement sur le système inné, le système adaptatif, celui qu'on peut provoquer. Et puis là, avec les médicaments que vous allez, dont vous allez nous parler tout à l'heure, l'un et l'autre, on est vraiment dans la stimulation de cette immunité. Mais la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cancer ?
Alors, cancer, c'est donc des cellules, comme disait Eric, c'est des cellules du soin.
Caroline
c'est quand
Robert.
Même, c'est quand même des cellules à nous qui se mettent...
Oui, alors ça, vous insistez beaucoup.
Oui.
Et les uns les autres,
oui,
actuellement, sur le moi et le non-moi, le soi et le non-soi.
Ouais, c'est pour ça.
Et là, vous dites, attention, c'est pas de l'extérieur que ça vient,
c'est pour
c'est
ça
de
que
nous-mêmes.
C'est moins facile de s'en débarrasser, probablement. Mais c'est des cellules qui, à la faveur de mutations, il y a... En général, plusieurs mutations de l'ADN qui vont faire que des protéines anormales vont être fabriquées et ces protéines vont modifier le programme normal de multiplication des cellules. Parce que normalement,
oui, parce que toutes les cellules se développent.
Ben normalement, nos cellules, elles ont vraiment un programme, elles sont formidables, c'est-à-dire que...
Il n'y a que les ovocytes qui restent une fois pour toutes dès la naissance, mais
ouais,
c'est vrai.
Vrai.
Hein. Enfin, après, ils vont mûrir, mais le stock, il est là. Mais la plupart des autres cellules...
Ouais, mais nous, par exemple, si on se coupe la peau, bon, je parle de la peau parce que c'est mon truc, mais on se coupe la peau, on va régénérer, on va cicatriser, mais après, les cellules, donc elles vont proliférer pour cicatriser, mais après, elles vont s'arrêter parce qu'elles vont trouver leur copine cellule à côté et elles vont comprendre qu'on arrête de pousser. Par exemple, ce qu'on appelle l'inhibition de contact, les cellules cancéreuses, souvent, ont perdu cette inhibition de contact. Elles se fichent qu'il y ait des cellules à côté et elles continuent de pousser. Et donc, elles sont sorties du programme de contrôle normal de l'organisme et elles poussent. Et en plus, elles ont, c'est un peu comme une fourmilière très, très efficace. Elles sont pour la collectivité, elles sont très fortes comme société presque. Elles s'en fichent qu'il y en ait, peut-être qu'il y en a qui vont mourir, c'est pas grave, du moment qu'il y en a qui vont rester. Et elles vont se débrouiller pour trouver des contingents cellulaires, parce qu'au début c'est un clone, au début c'est une cellule, et puis après très rapidement c'est très instable sur le plan génétique, donc il y a plusieurs clones, et les plus forts vont subsister, et le problème c'est que ça va prendre la place des organes normaux. Donc si ça fait des métastases pulmonaires, ça fait des boules dans les poumons qui vont grossir jusqu'à ce qu'on ait du mal à respirer. Si c'est dans le cerveau, c'est évidemment très critique. Donc c'est ça le problème du cancer, et ça fait quand même très longtemps qu'on essaye de développer une mémoire immunitaire contre le cancer. L'idée de l'immunothérapie du cancer, elle date pas du développement de ces derniers médicaments, ça fait longtemps. Le vaccin du cancer, c'est tellement séduisant comme idée, au lieu de se dire on tape avec des chimiothérapies potentiellement toxiques, éduquons notre système immunitaire à reconnaître ces cellules folles et à les éliminer. Sauf que ça fait longtemps qu'on essaye, et jusqu'à tout récemment, ça marchait pas du tout. On n'avait pas trouvé les bonnes méthodes. Maintenant, ces méthodes, d'ailleurs, on va les améliorer avec les armes qu'on a aujourd'hui. On essayait des cellules présentatrices d'antigènes qu'on boostait, qu'on énergisait. Ça marchouillait, je dirais. Enfin, nous qui voyons les patients, on savait bien qu'il y en avait certains où on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais si on...
Ça, de toute façon, ça va être un leitmotiv. C'est qu'au même traitement, il y en a qui réagissent, d'autres qui réagissent pas.
Ça, c'est le grand problème.
Et ça, c'est le grand problème. C'est que même quand on trouve quelque chose, et on va le voir tout à l'heure, ces grandes nouveautés, cette révolution réelle, il y a des gens pour qui ça marche, et d'autres pour qui ça marche pas.
C'est
donc il y a ce mystère encore à comprendre.
Ouais, c'est-à-dire qu'on est tellement quand même différents les uns des autres qu'en fait c'est un peu normal, c'est tellement complexe. On savait qu'il y avait certains patients avec ces anciennes techniques qui répondaient, mais quand on prenait le crible de l'évaluation de la médecine et des essais cliniques, c'était tellement peu de patients que ça passait inaperçu. En fait, ça marchait pas sur un assez grand nombre de patients. Et c'est seulement quand on a eu les connaissances donc qui sortent des travaux de ces chercheurs qui ont eu les prix Nobel et de leurs collaborateurs, qui ont compris d'autres mécanismes du système immunitaire et qui ont eu l'idée, non pas de pousser des systèmes positifs, mais de bloquer des freins.
Dans l'histoire, puisque vous évoquez l'histoire des vaccinations ou des actions pour relever l'immunité, dans votre livre, Éric Vivier, avec Marc Deron, l'immunothérapie des cancers, vous parlez de l'histoire de Coulet, hein, et ce qui va finalement avoir cette idée quand même saugrenue, il faut bien le dire, d'injecter des bactéries chez un patient qui a une tumeur des os avancée. Il va donc injecter une bactérie parce que on va apprendre que ici ou là dans le monde, d'ailleurs, puisque lui il est à New York, mais il y a un autre médecin célèbre qui est un écrivain célèbre, qui est Tchekhov, qui est en Russie, qui lui aussi va se rendre compte, mais je crois pas qu'il se connaissait, hein, qui va se rendre compte qu'en créant une infection, en particulier une infection cutanée, là, on vous rejoint sur la spécialité de dermato, en créant une infection cutanée, on va développer la défense immunitaire. Ça vous a fasciné, ça ?
Oui, ben, l'histoire de Collet, elle est juste passionnante, parce que l'idée est géniale, en fait. Il s'aperçoit que sur un patient qui avait un fibrosarcome, mais qui avait en même temps un érysipèle, donc une infection à streptocoque. Mais par contre, il y a une évolution assez favorable de cette maladie, fibrosarcome, dont on pouvait penser qu'elle serait plutôt défavorable. Et donc, le génie de Collet, c'est de dire, bah, peut-être qu'il y a une relation de cause à effet. Alors, non seulement il pense à ça, mais ensuite il le fait. Et comme vous dites, il va jusqu'à injecter, bah, encore une fois, hein, comme au bon vieux temps de la variolisation, de toute façon, c'est pratiquement les mêmes époques, il va injecter des streptos directement chez des patients qui ont des cancers. Donc évidemment, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont ceux des infections à streptocoque. Donc il induit des infections. Alors ensuite, il dit, bah, peut-être que ça serait bien de modifier la bactérie. Donc on est à exactement la même époque que Louis Pasteur, hein. On est à la fin du 19e siècle, on est en train de découvrir les bactéries les unes après les autres, de modifier ces bactéries ou leurs toxines pour en faire des vaccins. Donc il fait à peu près la même chose, c'est les fameuses collets toxines qui ont un certain effet clinique.
D'ailleurs, hein, qui ne sont pas des toxines, un détail.
Exactement. Mais en fait, au même moment, donc là on est au début du 20e siècle, la radiothérapie se développe et Collet arrête de faire de l'immunothérapie par injection de bactéries. Mais ça s'est repris ensuite en France, hein, par Mathé, oui, qui fait la même chose avec le BCG. Et le BCG est toujours utilisé dans certains cancers de la vessie.
C'est avec ça qu'il a sauvé les Yougoslaves irradiés, là, cette histoire, ou c'est pas avec le,
non,
c'est
non,
pas
non,
avec
il,
le BCG,
hein. Ce qu'il a fait, Mathé, c'est qu'il a simplement fait parmi les premières greffes de tissus hématopoïétiques, donc de sang, en gros, pour faire simple, chez ces physiciens qui avaient été irradiés dans des centrales nucléaires. Donc il était mondialement connu au moment où il s'intéresse à quelque chose d'autre que la reconstitution du sang, qui est le cancer, et il a des expériences qui sont intéressantes.
Cette vaccination anti-cancer, finalement, elle est rentrée dans les mœurs. Par exemple, pour nous, gynéco, on utilise un vaccin anti-papillomavirus, c'est-à-dire un cancer du col. On discute beaucoup des vaccinations en France, bien entendu, mais on voit bien quand même, quand on voit ce qui se passait il y a quelques centaines d'années sur certaines maladies redoutables et la prévention qu'on peut faire, tout doit être évalué, bien entendu, mais on a quand même quelques arguments, en particulier aussi la prévention pour le cancer du foie, issu des hépatites B ou C, par exemple. Donc, on est dans un climat de recherche sur cette vaccination. Vous pensez qu'un jour, on aura le vaccin général ? Qu'est-ce que vous en pensez,
Caroline? Je pense que là, vous parlez de deux cancers dont la cause infectieuse, et bien, le rapport avec l'infection est bien connu. Je pense qu'il y a plein de cancers pour lesquels on va peut-être découvrir un jour le micro-organisme responsable, mais là, c'est un peu compliqué, je pense, pour les auditeurs qui ne sont pas dans le domaine, parce qu'on a, en fait, ce dont on parle avec Eric, toutes ces simulations du système immunitaire, elles ne sont pas spécifiques du cancer. En fait, nous, on stimule le système immunitaire de façon très aspécifique, et c'est un peu presque de la chance que le système immunitaire aussi se réveille vis-à-vis du cancer finalement. Parce que quand tu parles des bactéries ou moi quand je parle des molécules qui bloquent le point de contrôle négatif, ben en fait ça bloque, enfin ça stimule l'immunité dans plein d'organes. D'ailleurs, ça nous crée à nos patients des effets secondaires d'hyperactivation du système immunitaire. Mais pour répondre à votre question, moi je crois qu'un jour on arrivera beaucoup mieux parce que maintenant on sait. Je vous parlais des mutations de l'ADN qui font des protéines anormales. Ces protéines anormales, elles peuvent être reconnues par le système immunitaire parfois. On les appelle des néo-antigènes. Et en fait, on sait que les réactions qu'on déclenche avec nos immunothérapies, quand elles marchent, en fait, elles réagissent la plupart du temps contre ces néo-antigènes. Le problème, c'est que d'un malade à l'autre, d'un cancer à l'autre, on n'a pas les mêmes. Ils sont très privés, ces néo-antigènes. Et aujourd'hui, moi, je pense que si on mettait le paquet, on arriverait à être, enfin, je veux dire, les moyens, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, on arriverait beaucoup mieux à soigner le cancer. Parce que je pense que si pour tous les malades, chacun, on savait tout de suite quel était le bouquet de néo-antigènes qu'il exprime à la surface de son cancer.
Donc là, c'est-à-dire une analyse de ses facteurs personnels.
Oui, oui. Et de l'autre côté, l'analyse du micro-environnement. Enfin, aujourd'hui, les choses, on voit comment elles pourraient s'emboîter. Donc, on a fait déjà des gros progrès, mais je vois que ça va être exponentiel, les progrès. Et je pense que c'est pas de la science-fiction et que bientôt, on arrivera vraiment à soigner les cancers chacun.
Oui, non, je voulais revenir sur ce qu'a dit Caroline Robert parce que c'est effectivement très important pour que tout le monde comprenne bien. Il y a deux sortes de cancers, pour faire simple. Il y a les cancers qui ont une origine de microbes, c'est-à-dire c'est les microbes qui sont l'origine du cancer. On a parlé de virus, mais il y a des bactéries aussi. Et puis, d'un autre côté, il y a tous les cancers dont on pense qu'il n'y a pas de cause microbienne. Donc, avoir des bénéfices cliniques d'une vaccination, on parlait du cancer du col, par exemple, suite à une vaccination, c'est très bien, mais en fait, le vaccin, c'est pas un vaccin anti-cancer, c'est un vaccin anti-virus. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut bien mettre claire.
C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on ait la cause
exactement.
Du cancer. Exactement. On en a certaines, hein, voilà. De l'environnement, des toxiques, des virus, des microbes. Et puis il y en a d'autres auxquelles on n'a pas trouvé, ou il y en a peut-être.
Voilà,
pas.
Alors ça, c'est la majorité des cancers. Hein. La majorité des cancers, on sait qu'il y a certains facteurs favorisants, qu'ils soient environnementaux ou génétiques, mais on n'a pas une cause aussi clairement démontrée que les cancers dont on vient de parler, qui sont d'origine microbienne. Et pour tout cela, l'immunothérapie offre une arme supplémentaire par rapport à l'existant, mais qui est complémentaire de l'existant. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le cancer, il est traité par chirurgie, on essaye d'enlever le cancer, par radiothérapie, on essaye de brûler le cancer, pour faire simple, par chimiothérapie, on essaye de tuer les cellules tumorales. Donc, à chaque fois, la cible est la cellule tumorale elle-même, le cancer par lui-même. Ce que l'immunothérapie rajoute, c'est une autre arme qui doit être utilisée en combinaison avec tout ce qui existait précédemment et qui permet de stimuler, comme Caroline Robert le disait, notre système immunitaire. Et la grande découverte sur laquelle se basent ces résultats cliniques importants, qui, je pense, font l'objet d'une révolution médicale, c'est qu'en réalité, le système immunitaire, quand il est aussi tumoral, il est un peu comme la belle au bois dormant. Il est là, mais il ne sert pas à grand-chose parce qu'il est endormi. Et toute l'idée des médicaments de l'immunothérapie, c'est de débloquer ce système immunitaire par des médicaments qui sont des anticorps et qui vont stimuler donc cette réponse immunitaire en débloquant ce qui la bloque.
Voilà, on va voir ça dans le détail, peut-être en se détendant avec les Rolling Stones. Allez.
Matière à penser, René Friedman.
Oh,
vous êtes sur France Culture et nous sommes en compagnie de Caroline Robert, chef de service de dermatologie à Gustave Roussy, et de monsieur Éric Vivier, monsieur le professeur, bien sûr, d'immunologie à Aix-à-Marseille, qui, avec son collègue et néanmoins ami Marc Desron, a publié chez Odile Jacob l'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale. On a dit que l'immunothérapie des cancers, le traitement du cancer par immunothérapie, était peut-être la pénicilline du traitement infectieux. Enfin, c'était vraiment une zone d'apparition ces dernières années. Et c'est assez récent, on va le revoir dans le détail, qui permet d'envisager, en tous les cas, là où les gens étaient condamnés, faut bien le voir, à très court terme, on a réussi, pas pour tous, malheureusement, mais enfin déjà pour un certain nombre, à sortir de l'ornière et à sortir bien de l'ornière. Donc il y a vraiment, et je sens en discutant avec vous, que vous êtes plein de sérieux mais d'espoir. Ce système de défense, donc vraiment vous êtes en train d'évoquer une philosophie différente. C'est-à-dire que plutôt que de tuer les petits soldats qui arrivent les uns après les autres quand c'est des cellules cancéreuses et de leur tirer dessus, on va essayer de faire qu'est-ce qui produit les soldats, plutôt qu'est-ce qui peut être limité par la nature elle-même, par la personne elle-même, au lieu d'apporter des drogues, ou en tous les cas, pas uniquement, parce qu'elles peuvent être combinées, mais qui sont aussi leur rôle néfaste. Les chimiothérapies, c'est lourd, c'est extrêmement lourd, ça peut avoir des conséquences très difficiles à vivre, peut-être. On peut mourir guéri, comme on dit, et c'est pas toujours simple. Alors, je voudrais qu'on revienne sur, parce que elles sont assez formidables, ces exemples de découvertes, dans le domaine de l'immunologie. Ce sont des anticorps spéciaux que vous allez nous expliciter et qui remontent, comme je le disais pour commencer, 24 ans de travail. 24 ans. Et ça commence par un certain Pierre Goldstein à Marseille, comme vous, Marseille. Alors allez-y, Éric Vivier, racontez-nous un peu.
Oui, donc au centre d'immunologie de Marseille Munich, j'ai l'honneur de diriger pendant 10 ans, Pierre Goldstein, un des grands chercheurs français en immunologie, a découvert une molécule, c'était TLA4. Et cette molécule, en fait, on en a ignoré son fonctionnement pendant très très longtemps.
Oui, parce qu'en fait, on trouve une molécule, on l'appelle d'un nom bizarre, TLA4, et à quoi ça sert?
Et ben ensuite, on essaie de découvrir la biologie de cette molécule. Et il se trouve que d'autres ont participé à essayer de comprendre comment fonctionnait cette TLA4. Et je pense qu'un élément majeur dans l'histoire de cette découverte, cette TLA4, c'était au moment où on a enlevé cette TLA4 des souris. En fait, on peut, par des techniques de génétique, enlever des gènes. Là, certains ont enlevé le gène de cette TLA4, des collègues canadiens et américains, et sont aperçus qu'à ce moment-là, la souris, elle mourait extrêmement rapidement, parce que son système immunitaire était totalement emballé. Et en fait, là, on a découvert collectivement quelque chose d'extrêmement important, c'est que dans le système immunitaire, comme dans tout système biologique, en fait, il n'y a pas que des accélérateurs pour activer les cellules, il y a aussi des freins. Et l'un de ces premiers freins révélés au monde était cette TLA4. Et donc, l'idée de Jim Allison, qui a reçu le prix Nobel en 2018 pour cette découverte, était justement de dire qu'il y a, s'il y a des freins qui bloquent le système immunitaire, alors qu'on sait que par ailleurs, et on n'a pas eu le temps de raconter toute l'histoire, mais on savait que par ailleurs, le système immunitaire pouvait aussi lutter contre le cancer, eh bien, son idée était de dire peut-être que le système immunitaire ne peut pas être aussi efficace que ce qu'on voudrait dans le cancer parce qu'il est bloqué. Donc, pourquoi pas essayer de le débloquer? Et à ce moment-là, il s'est servi d'un médicament, d'une classe de médicaments absolument incroyable qui sont les anticorps. Donc, les anticorps, c'est pas simplement des molécules qui nous aident à vivre et qu'on a dans notre organisme. C'est aussi des médicaments que l'on peut produire avec une technologie qui est complètement maîtrisée jusqu'au stade industriel. Et la beauté de ces anticorps, c'est qu'ils sont très spécifiques, donc ils vont reconnaître une molécule et pas une autre, et qui peuvent, en fait, faire ce qu'on veut, pour faire simple. Donc, il a utilisé cette technologie des anticorps pour bloquer cet TLA4, et il s'est aperçu d'abord chez la souris et ensuite grâce à la collaboration avec des cliniciens et des cliniciennes comme Caroline Robert qu'effectivement ça marchait chez l'homme, c'est-à-dire qu'on pouvait...
J'aurais juste un moment sur la souris avant de passer la parole à Caroline Robert. Effectivement, il s'agit de souris qui vont avoir une tumeur, on injecte des cellules tumorales pour qu'elles développent la tumeur, un autre lot de souris qui vont avoir la même injection mais à laquelle on rajoute l'anticorps anti-CTL4.
Exactement.
Et voilà. Et donc, celles-là, elles vont être, leurs récepteurs vont être inhibés, et donc on libère l'action des lymphocytes. En un mot, au lieu de pousser sur l'accélérateur, on va lever la pédale, on va quitter la pédale du frein pour laisser avancer la voiture. On laisse donc ceux qui freinent, on l'enlève.
Exactement. En fait, une cellule tumorale, elle a deux manières d'interagir avec le système immunitaire, comme des petits pieds, hein, pour faire simple, des pieds qui appuient sur des accélérateurs du système immunitaire et puis des pieds qui appuient sur les freins du système immunitaire. Et bien, en fin de compte, les traitements dont on parle là, qui sont l'objet d'une révolution médicale, ils vont bloquer l'action du pied, entre parenthèses, hein, qui vient des cellules tumorales, de telle manière à ce qu'ils ne puissent plus appuyer sur le frein qui est sur le système immunitaire. Donc on libère, c'est vraiment une immunité qui est libérée, et on va voir que c'est aussi à l'origine des effets secondaires, parce que ces traitements, non seulement ils ne marchent pas sur tout le monde, et ça il faut le dire, mais en plus ils ne sont pas dénués d'effets secondaires, mais c'est quand même une révolution médicale.
Le CTL4, plus que l'autre ?
On va laisser parler Caroline là, oui, sur ces effets secondaires chez les patients.
Quand est-ce que vous êtes tombé dans la baignoire de cette révolution avec le mélanome?
J'étais dans une baignoire où il n'y avait pas beaucoup d'eau au début, parce que je faisais beaucoup d'essais cliniques, et jusqu'à présent, jusqu'à 2011, ils étaient négatifs. On avait toujours l'espoir. Et voilà qu'on commence à tester cet anticorps. Juste pour vous dire, les anticorps, les noms qu'on utilise, ils se terminent toujours en AB pour antibody. Donc, comme ça, les gens savent. Ipilimumab, c'est le premier anticorps.
Ah oui.
Ipilimumab, on dit souvent Ipi, c'est l'anticorps anti-CTLA4. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit remboursé, ce médicament, parce que, tiens, j'en profite que je suis à la radio, parce que ce médicament n'est plus remboursé par la Sécurité sociale. Ce qui est complètement scandaleux. Bah, il coûte cher, c'est normal, comme tous les médicaments efficaces.
Oui, mais à peu près.
C'est 4 injections, c'est un traitement qui consiste en 4 injections, et je crois que maintenant, les prix, c'est 80 000 euros, quelque chose comme ça.
Mais bon,
en tout. C'est un traitement en tout, comme ça. Mmh. Les traitements coûtent très cher.
Mais ça, c'est un autre débat.
Et c'est les spécialistes de l'économie de la santé qui peuvent en parler, pas moi. Moi, je suis très embêtée quand je ne peux pas donner un médicament qui est efficace. Donc, bref, ce médicament, qui a été vraiment le début de la révolution, est administré sous la forme de 4 injections intraveineuses séparées de 3 semaines et a un effet très important chez très peu de patients. Voilà, c'est ça.
Donc vous l'avez utilisé dans le cas de mélanome avec métastase.
De mélanome avancé, d'une maladie mortelle avec des patients qui meurent en moyenne en moins d'un an. Pas de traitement efficace. Et de quoi on s'aperçoit avec ce médicament? Qu'on a un pourcentage de patients, alors bien sûr trop faible, mais environ 20-25% de patients qui survivent longtemps. On a ce qu'on appelle ce plateau de la courbe, quand on représente ça avec le temps en abscisse, ce plateau très plat qui est au-dessus de la courbe de survie normale qu'on avait, enfin normale, qui est la survie d'autrefois avec nos traitements inefficaces. Et là, c'est une vraie révolution. Le problème, c'est qu'on ne sait pas reconnaître à l'avance qui va répondre à ce traitement.
Il y a des choses qui sont pour avancer.
Il y a beaucoup de recherches dessus et on n'est toujours pas capable de prédire vraiment bien qui va répondre à ce traitement. On a des idées, mais ça ne nous permet pas vraiment d'être sûr. C'est vraiment l'objet de la recherche actuellement dans mon laboratoire et dans plein d'autres laboratoires. C'était d'avoir des marqueurs prédictifs d'efficacité et de toxicité aussi, parce que comme Eric le disait, on stimule le système immunitaire d'une façon donc non spécifique. C'est pas un vaccin anti-mélanome. Alors aussi, on parle du mélanome parce que c'est le premier cancer dans lequel ça a été essayé. Maintenant, pas trop l'anticorps anti-CTLA4, mais les anticorps qui sont arrivés après, on les utilise dans plein d'autres cancers. Mais le mélanome, c'était vraiment les pionniers. Donc, on a vu ça. Et ça, c'est arrivé sur le marché en 2011. Et déjà, à ce moment-là, se développait, je dirais, la deuxième génération d'anticorps qui freine ce frein, là, qui bloque ce frein. Et là, sont les anticorps anti-PD1.
Alors, racontez-nous aussi cette histoire, parce que ça, c'est l'histoire du japonais. Là, on a fait l'histoire américaine avec Allison, qui a eu le prix Nobel, avec ce qu'on vient de dire. Et puis là, c'est le japonais, Tatsuki Honjo, qui n'était pas du tout parti sur cette thématique-là, hein, d'ailleurs, dans son travail de recherche.
L'histoire d'Honjo est complètement inspirante pour ceux qui s'intéressent à la recherche, parce que Honjo a une obsession, c'est d'essayer de comprendre la biologie des lymphocytes B. absolument rien à voir avec le cancer.
Dans les globules blancs, il y a plusieurs...
Voilà, dans les globules blancs, il y a certaines cellules qui produisent des anticorps, ce sont les lymphocytes B, et lui s'intéresse, alors ça va être des gros mots, hein, mais c'est les hypermutations somatiques et les commutations de classe. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement précis dans la biologie des lymphocytes B. Il se trouve qu'à côté de ça, un jour, dans les années 90, il s'intéresse à... un autre sujet, mais c'est vraiment une espèce de hobby, quoi. Il s'intéresse à comment les cellules du thymus, qui est un organe dans lequel se développent les lymphocytes T, qui sont les autres lymphocytes, bah, comment ces cellules-là vont mourir. Et par des techniques de génétique, il identifie un gène, PD1. Et là, en fait, même si c'était vraiment pas son sujet, il continue comme ça à bas bruit. Enfin, à bas bruit à la japonaise. C'est-à-dire qu'en fait, il publie papier sur papier en essayant de comprendre comment marche PD1. Et à l'instar de ce qui avait été montré par CTLA4, il s'aperçoit que quand on enlève le gène de PD1 dans une souris, eh bien, on va aussi libérer le système immunitaire.
Sur le même principe.
Exactement le même principe.
Il y a des freins, j'enlève le frein.
Alors là, il a carrément enlevé le frein. Hein. Bon, donc voilà. Et donc, petit à petit, Onjo a construit une autre thématique, mais qui était encore une thématique hobby pour lui, autour du cancer, en stimulant le système immunitaire, en débloquant les freins. Et donc, c'était les mêmes intervalles de temps. Hein, dire qu'il faut savoir quand même que en moyenne, entre le moment où on a l'idée d'une molécule et le moment où cette molécule arrive sur le marché, en sachant que la règle, c'est qu'elle n'y arrive pas, et on va revenir là-dessus, sur ces chiffres, hein, il se passe en moyenne 20 ans, ça coûte 1 milliard, et que la règle est l'échec. Donc il faut être effectivement très persévérant. Je dis que la règle est l'échec, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phases dans la mise sur le marché d'un médicament, il y a des phases 1, des phases 2, des phases 3, et les médicaments qui rentrent en phase 1, c'est-à-dire qu'ils ont déjà suivi tout ce qui est avant, c'est-à-dire l'identification de la molécule, l'idée même de comment cibler cette molécule, tout ce qu'on appelle la préclinique, et bien une fois que la molécule rentre en essai clinique chez l'homme, une molécule sur 10 va aller jusqu'au bout. Donc,
Parce qu'on trouve des effets secondaires, pas d'effets.
Pas d'effets surtout, beaucoup d'effets secondaires aussi, et puis il y a d'autres éléments qui font qu'une molécule ne va pas le faire. Donc c'est quand même 20 ans, 1 milliard. Donc effectivement, il faut être extrêmement accroché pour aller jusqu'au bout. Et Onjo est allé du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est absolument incroyable dans cette histoire, sachant qu'encore une fois... Hein, ah oui, je pense que c'est vraiment un grand monsieur de l'immunologie.
Et donc, là aussi, on va donc trouver un nom qui se termine en MAB. Hein ?
Oui, alors il y en a deux. Il y a les deux anticorps, nivolumab et pembrolizumab. C'est un peu difficile. On dit nivo et pembro. Et ces deux anticorps sont arrivés donc quelques années après. Le développement a été rapide. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Parce que vous savez, quand on développe un médicament, il y a des phases successives. Il y a tout ce qui se fait en préclinique. Donc, c'est avant d'arriver chez l'homme, sur les cellules, sur les souris. Après, il y a les phases 1. Donc, c'est en général des petits groupes de patients. On regarde quelle va être la dose maximale tolérée quand on est dans les médicaments plus classiques. Mais en général, c'est quelques patients. On regarde pas tellement l'efficacité, mais on essaie de trouver comment on va l'utiliser et à quelle dose. En phase 2, on met plus de patients et là, on trouve la dose définitive et puis on a une idée de l'efficacité. Et en phase 3, en général, on compare au traitement qu'on avait avant. Bah là, en fait, la phase 1, en général, je vous dis, c'est 15-20 patients. La phase 1 de pembrolizumab, elle a recruté 655 patients. Pourquoi ? Parce que les résultats cliniques étaient tellement incroyables. Nous, on a fait la phase 1 avec plein d'autres collègues de par le monde, on a vu des résultats cliniques tellement extraordinaires et le laboratoire qui développait cette molécule, pas bête, s'est dit c'est fantastique, on va recruter, on va faire une énorme phase 1 et on va enregistrer notre médicament sur la phase 1 et c'est ce qui s'est passé et c'est très très rare.
Très très rare, effectivement. Et donc on comprend bien que les gros laboratoires comme Merck et comme BMS ont eu l'autorisation d'utiliser ces produits comme des médicaments en septembre 14, en décembre 14, donc tout ça est extrêmement récent.
Le développement a été très très rapide après.
Bien sûr. Et là ma question c'est, est-ce qu'il y a d'autres freins comme ça qui sont repérés, qui sont en cours d'identification ? Eric Vivier.
Alors en fait, avec Marc Daheron, avec lequel on a écrit ce livre, là, chez Odile Jacob, en fait, on a regardé sur l'ensemble du génome, chez l'homme, quels étaient les récepteurs inhibiteurs. Alors, des récepteurs inhibiteurs, il y en a de plusieurs sortes, mais prenant exemple sur CTLA4, sur PD1, on est allé chercher tous les récepteurs inhibiteurs qui existaient chez l'homme. Il y en a plus de 300. Donc, ça laisse un espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est une révolution médicale, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à améliorer. On est vraiment au début de l'histoire, on est comme quand Fleming découvre la pénicilline dans les années 20, 1900.
Oui, après, il y a eu d'autres antibiotiques.
On continue à faire des antibiotiques aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est le début d'une histoire, une histoire qui est passionnante pour tout le monde, pour les chercheurs, pour les cliniciens, pour les patients en premier chef, bien évidemment. Et donc, pour répondre à la question, il y a effectivement beaucoup de voies possibles, beaucoup de freins possibles qu'on peut éventuellement bloquer, encore une fois, par des anticorps, voire par des petites molécules, et qui pourraient avoir des essais cliniques intéressants. C'est ce que beaucoup, à travers le monde, essayent de tester. Il faut savoir que le développement de ce secteur est absolument fulgurant. En fait, il y a carrément une nouvelle science. On parle d'immuno-oncologie. Personne ne parlait d'immuno-oncologie il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est carrément une science qui allie l'immunologie, la science de l'immunité, à l'oncologie, la science du cancer.
En fait, ce qui me frappe, c'est pourquoi certains cancers et parmi ces cancers, pourquoi certaines personnes.
Alors ça, c'est vraiment les questions sur lesquelles tout le monde travaille, hein, Caroline en a parlé. Mais pour autant, il y a quand même un élément extrêmement important qu'il faut dire. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'oncologie, un médicament, le Pembro dont a parlé Caroline, a été approuvé dans tous les cancers à partir du moment où il y avait certaines caractéristiques génétiques qui sont des caractéristiques d'instabilité. Mais quand même, c'était la première fois dans l'histoire de l'oncologie.
Alors qu'avant, on était sur tel médicament pour tel cancer, pour tel organe.
Exactement. En fait, on définit les cancers par leur localisation géographique, un cancer de la peau, cancer du cerveau, cancer du pancréas. Et à chaque fois, il y a des premières lignes de traitement, des deuxièmes lignes de traitement, des troisièmes.
Parce que là, du coup, oui, on ne vise pas spécifiquement cette zone-là, encore qu'il y a peut-être d'autres cibles, hein, et d'autres de développement pour viser telle ou telle zone, en particulier les tumeurs. Mais on va, encore une fois, la philosophie, c'est de réveiller le système de défense, donc faire appel à ses forces à soi. On le dit souvent psychologiquement, hein, que c'est important de combattre, d'être fort et tout ça, mais ça sous-tend peut-être cette psychologie, tout un système de défense. Et c'est ça qui est mis en avant, et je trouve que ça c'est vraiment le vrai changement de ce que moi j'ai connu quand je faisais les études. Hein. C'était une autre approche, on visait telle cellule, et pas du tout le système en général capable de reprendre du poil de la bête contre toutes les agressions, celle-là peut-être aujourd'hui, d'autres demain, et puis peut-être qu'on est constamment en vigilance, parce que la vigilance immunitaire, elle est permanente. Elle est permanente, oui, Éric Vivier.
Parce que le système immunitaire, c'est un système qui est multicarte. Hein, il peut lutter contre les microbes, comme on l'a vu, il peut lutter contre le cancer, et donc en libérant ce système immunitaire, on peut effectivement avoir l'espoir en sachant comment utiliser ces molécules, en combinaison avec ce qui existe déjà. On a parlé de la chimiothérapie, de la radiothérapie, les nouvelles molécules qui vont venir aussi, issues de la recherche fondamentale. Et bien tout ça, ça nous donne un espoir important de pouvoir peut-être mieux contrôler l'ensemble des pathologies tumorales.
Pour un peu répondre à votre question de qui répond et pourquoi et quel cancer, on a quand même certains éléments de réponse qu'on utilise pas de façon routinière, mais ça c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est que avant qu'on ait ces médicaments-là, un cancer avec beaucoup de mutations somatiques, hein, beaucoup d'altérations génétiques, c'était mauvais parce qu'on utilisait des drogues qui n'allaient pas agir sur tous les clones cellulaires, parce que il y avait des échappements, parce que le cancer était hétérogène génétiquement. Et en fait, maintenant qu'on stimule le système immunitaire, finalement, ces cancers mauvais, c'est ceux-là qui répondent mieux. Et quand on regarde, et pourquoi le mélanome et le cancer du poumon répondent bien, on pense, enfin c'est quasiment sûr, en moyenne, parce qu'ils sont très mutés. Pourquoi ? Parce que soleil sur la peau, et pourquoi ? Parce que tabac avec le... Alors je dis pas qu'il faut aller au soleil et qu'il faut fumer, parce que évidemment c'est ça qui nous donne le cancer. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Et on travaille maintenant, on va regarder ça, je pense, de plus en plus facilement, la charge mutationnelle, parce que à la faveur de ces mutations, on va pouvoir créer des néo-antigènes, des protéines nouvelles, un peu bizarres, contre lesquelles le système immunitaire va pouvoir être réveillé.
On sent bien cette efflorescence, hein, les nanos de médicaments d'un côté, je dirais, ces nouvelles recherches sur les anticorps, après avoir défini les sites de frein qu'on peut lever. Enfin, vous êtes dans un domaine dur, parfois, mais passionnant. parfois, qui peut nous appuyons sur donner l'espoir, bien entendu, de tous ces travaux qui se passent dans le monde. Voilà, donc cette émission se termine. Elle a été réalisée en partenariat avec le quotidien du médecin, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journaud, Colin Posnigruel, Claude Niort. Nous allons continuer sur ce thème-là, d'ailleurs, dès demain, autour de la thérapie génique des maladies hématologiques, c'est-à-dire du sang. Donc restez sur France Culture, podcastez, écoutez, et puis voilà, appréciez, ça vaut le coup. À demain.